France Culture, salle des archives, Mathieu Garrigou-Lagrange.
La France dans l'œil de Marcel Pagnol. Sixième et dernier épisode, les sourires de Marcel.
Et alors, monsieur Brun, et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, hein?
Ah, c'est impressionnant.
Ah oui. Et vous êtes beaucoup promené là-bas, à Paris?
Chaque soir, je l'ai flâné sur les boulevards.
Nous avons laissé l'épisode précédent se terminer avec une archive de Georges Brassens. Et dans ce dernier épisode, eh bien, on fait parler les copains d'abord, ceux qui rendent hommage à leur ami décédé le 18 avril 1974. Parmi eux, il y a le réalisateur Pierre Tchernia et son ami d'enfance Arnaud Charles Brun, devenu ensuite réalisateur à la radio après avoir collaboré avec Pagnol. Tous deux sont invités, le lendemain même de sa mort, au micro des après-midi de France Culture. On redescend illico dans la salle des archives, voir ce qu'il en est.
Arnaud Charles Brun, est-ce que vous êtes Monsieur Brun? Est-ce que vous êtes Monsieur Brun?
Oui, on me pose toujours cette question. Et c'est justement grâce à cette chose qui est tout de même futile que j'ai dû moi-même avoir un reflet de sa célébrité, de Marcel. En réalité, il m'a appelé Monsieur Brun, et je l'ai raconté très souvent, parce que j'étais attaché à Marseille par des liens familiaux, par aussi une certaine paresse méridionale qui m'incitait à vivre dans ce pays de soleil où j'avais toutes mes habitudes. Et Marcel Pagnol, qui à ce moment-là venait d'avoir de grands succès à Paris, était venu à Marseille et m'avait dit « Écoute Charles, maintenant j'ai franchi la barrière, si tu ne viens pas à Paris cette année, je te ridiculiserai dans ma prochaine pièce. Je ferai de toi un petit employé des douanes, sans ambition, qui s'appellera Monsieur Brun. » Et il m'a dit chose plus grave encore, il ne sera même pas marseillais, il sera lyonnais. Et effectivement, il a tenu parole et il a mis le nom de Monsieur Brun que Robert Wattier a tenu avec autant de talent depuis. Et effectivement, je suis venu à Paris avec lui. Et là, bien entendu, j'ai quitté tout contact avec Marseille. Et c'est pour ça qu'au fond, je suis encore ici aujourd'hui. Parce qu'après le cinéma, nous sommes redescendus en Provence tout de suite. Moi, j'ai tourné Angèle pour lui. Et nous avons fait, bien entendu, Geoffroy de la Maussan. On a fait Cigalon. On a fait des tas de choses dans la banlieue marseillaise. Et puis après, un beau jour, nous sommes séparés. Pour des raisons qui étaient purement financières, je pense. Et étant venu à Paris, j'y suis resté. Et alors là, j'ai commencé à la radio. Et l'expérience du cinéma que m'avait donné Marcel Pagnol m'a servi ensuite à faire mon métier de metteur en ondes et de réalisateur radiophonique.
Et oui, on se souvient bien de ce Monsieur Brun dont il est question dans l'archive. Il est un personnage de la pièce Marius, un Lyonnais, imaginez-vous, vérificateur des douanes, en plus de la matière à se moquer pour le Marseillais Pagnol. Un peu plus loin, dans la même émission, le rejoint le réalisateur bien connu Pierre Tchernia, qui revient cette fois sur l'œuvre de Pagnol et le legs symbolique que l'écrivain a laissé à sa ville de Marseille.
C'est une carrière tout à fait exemplaire. Ce fils d'instituteur a fini auteur de dictées. Vous comprenez, le cycle est complètement accompli. Il est devenu un académicien, certes, mais il est devenu un grand auteur populaire, internationalement connu. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est ça, c'est que ce soit un auteur populaire, c'est-à-dire un homme qui frappe le public parce qu'il écrit avec simplicité des choses claires. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand on prend un stylo et du papier blanc, on a toujours tendance à couper les cheveux en quatre. Lui, il avait cet immense talent d'être immédiatement compréhensible et de dire des choses profondes avec simplicité. Sur le plan de l'universalité de Pagnol, vous comprenez, c'est très frappant de penser que, j'ai appris que la semaine dernière, les Japonais ont demandé à la Société des auteurs l'autorisation de monter Marius au Japon. C'est donc que Marius n'est pas une histoire marseillaise, c'est bien que Marius est une œuvre internationale avec la respiration de grands sentiments.
Arnaud Charles
Brun. Et alors justement, je reprends le propos de Pierre Tchernia. Il est évident que Marcel avait été d'une très grande simplicité, mais c'est-à-dire qu'en même temps, il surélevait les débats. Par exemple, quand je pense à ce qu'il a fait de Marseille, qui était une ville de galéjade, presque sans importance, ce qu'il a fait de Marseille, qu'il a mis Marseille sur le plan dramatique, au même titre que Elsener, que Vérone, qu'il en a fait, somme toute, un haut lieu de l'expression dramatique. Eh bien, pour faire cela de Marseille, je vous assure qu'il fallait à la fois un esprit de clarté et en même temps, il fallait pouvoir surélever, transfigurer, pour ainsi dire, une cité pour en faire ce qu'il a fait. Une grande capitale intellectuelle du monde.
Karine Anne, vous êtes notre troisième invitée à descendre avec nous dans la salle des archives. Vous avez publié Marcel Pagnol, Un autre regard, c'est aux éditions du Rocher. Et vous êtes également écrivaine. Qu'est-ce que ça vous inspire pour commencer ces témoignages qu'on a entendus? À quoi ça vous fait penser?
Ben, ça m'a fait rire parce que je trouve que c'est charmant et c'est très drôle et c'est très Pagnol en fait. M'est venue la phrase de Pagnol dans la trilogie, j'ai entendu assez de lyonnaiserie dans ce bar, donc il a quand même poussé les curseurs effectivement et c'est une anecdote magnifique.
C'est vraiment le derby, oui. Lyon-Marseille, il y a un autre derby qui est Lyon-Paris qui revient souvent,
oui,
aussi,
oui, voilà,
chez Pagnol.
Et c'est fait très subtilement et c'est très drôle tout au long de la trilogie. Je sais que Georges Bernier avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, il avait dit « Mistral chante, Daudet raconte, Giono déclame et Pagnol parle ».
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Eh bien, ça veut dire exactement ce que vient de dire Pierre Tchernia, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement il parle, il nous parle à l'âme, il nous parle au cœur, et effectivement, c'est ce qui le rend universel, parce qu'il s'adresse à tous les temps et à tous les continents. Et il y a effectivement une transversalité qui fait qu'il peut aller partout, et il a été partout. Il a été traduit en toutes les langues. Il continue aujourd'hui d'être parmi les 50 auteurs classiques les plus lus, et c'est justement pour ça, parce qu'il s'adresse à l'essentiel de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui traverse les siècles. Enfin, je veux dire, depuis qu'on a écrit la chanson de Roland jusqu'à aujourd'hui, l'éternel humain demeure.
Même si tout le monde ne se retrouve pas dans Pagnol, qui, s'il fait appel à l'éternel humain, le fait de façon située aussi, dans une région, à une époque. Donc, est-ce que c'est universel et totalement universel, Karine?
Oui, parce que, oui, je pense que oui, puisqu'effectivement, on voit très bien que l'œuvre de Pagnol fonctionne ailleurs justement qu'en Provence, ailleurs qu'avec l'accent provençal, et a même été d'ailleurs transposé à d'autres époques. Donc effectivement, quand on évoque la quintessence humaine, en réalité, elle est aussi valable au Japon qu'elle peut l'être en Amérique du Sud, elle est aussi valable au XIVe siècle qu'elle pourra l'être au XXVe. Et effectivement, cet éternel-là s'adresse à chacun de nous. Pagnol disait quelque chose, il disait « on peut être ridicule quand on aime, on l'est jamais quand on souffre ». Et effectivement, il met aussi en scène des souffrances, la souffrance d'un père avec son fils, d'une femme pour un homme, etc. Tout ça, c'est transposable pour tout le monde. Jean Renoir, qui était quand même quelqu'un qui réfléchissait sur la question, avait dit « Dans l'entreprise de la découverte de l'homme, Pagnol est roi, tout ce qu'il dit sur scène ou dans un film contribue à nous faire découvrir l'essentiel humain ». Et cet essentiel humain, il est universel.
Au fait, c'est ce mot de simplicité qui est revenu plusieurs fois dans les archives.
Oui.
Simplicité, ça n'est pas simplisme.
Non, non seulement ça n'est pas simplisme, mais c'est aussi très travaillé. C'est-à-dire que le style de Marcel Pagnol, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas un style simple d'entrée de jeu. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans l'épure. Et quand on regarde les œuvres de jeunesse, que ça soit Pirouette ou La petite fille aux yeux sombres, c'est une écriture très ampoulée, c'est une écriture très, comment dirais-je, avec beaucoup d'adjectifs, de choses. Au départ, il voulait écrire en vers. Hein. C'était un grand admirateur d'Edmond Rostand et qui souhaitait, voilà, une épopée. Alors il a fait, hein, l'épopée de l'eau, l'épopée du pain, mais il l'a faite complètement autrement. Et ce style très épuré, cette langue très simple, il n'y a pas de mots compliqués chez Pagnol. Le seul mot compliqué que vous trouvez, c'est le mot cinégétique dans les souvenirs d'enfance, et c'est le seul. Toutes ces figures de style reposent sur des mots extrêmement simples. Est-ce que Panis navigue? Non, pas si bête, il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des autres. Il n'y a aucun mot compliqué.
Est-ce que vous savez comment il travaillait? Est-ce que vous savez s'il retravaillait beaucoup?
Et oui, et j'ai cette chance de le savoir parce que j'ai travaillé sur ses manuscrits. Et quand on remonte en fait au manuscrit, dans cette étude génétique qui est en fait le manuscrit, j'ai eu la chance de faire l'appareil critique de La gloire de mon père, on se rend compte qu'il utilisait la méthode que j'ai appelée, moi, celle de la patte d'oie. C'est-à-dire que, comme si vous étiez à un carrefour et que vous aviez plusieurs directions qui peuvent être empruntées. Il n'y a pas tellement de ratures chez Pagnol. Il a une écriture magnifique, extrêmement, une très belle calligraphie, très dessinée. Et en fait, il va raconter trois fois le même épisode avec, j'allais dire, trois narrations différentes, trois aboutissements différents. Parfois, l'épisode, j'allais dire, est très, très même différent dans sa réalisation et dans son aboutissement. Et puis, vous verrez qu'à la fin, il en choisit un. D'entrée de jeu, ça nous donne déjà deux indications. La première, c'est que les souvenirs d'enfance ne sont pas des souvenirs.
Ce sont des fabrication voilà. De souvenirs.
Voilà, voire un travail romanesque, hein, tout simplement, puisque ça veut dire qu'effectivement, il va peut-être partir d'un point de détail et puis le tremplin de son imaginaire va l'emmener sur trois destinations différentes et il choisira effectivement à la fin la bonne. Et puis le fait que oui, en effet, c'était un véritable travail. Et les souvenirs d'enfance ne sont pas du tout un premier jet comme on a voulu le faire croire.
Autre hypothèse, ce qui caractérise l'art de Pagnol et qui le rend émouvant, ce serait sa maîtrise du portrait. Voilà en tout cas l'avis de l'éditeur Bernard de Fallois. Il en parlait sur RFI, on l'a retrouvé dans la salle des archives, 1977.
Alors, Marcel Pagnol excelle dans l'art du portrait. Tous ces personnages que l'on rencontre ont chacun un caractère particulier. Est-ce qu'on pourrait donner justement des exemples? Et puis, est-ce que vous pourriez me dire comment, selon vous, Marcel Pagnol a cet art du portrait?
Au théâtre, il avait naturellement, comme tous les grands auteurs dramatiques, compris que l'action est une chose, mais que ce qui est plus important que l'action, plus grand que l'action, c'est la création de personnages. C'est de créer, avec le personnage de César, avec le personnage de Topaz, des types humains dont le spectateur retient l'image parce qu'ils représentent un certain caractère, une certaine personnalité qui, dans laquelle beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. Je crois que dans les souvenirs, il a procédé de la même façon.
Des personnages réels, mais qui en fait se dépassent par cet art qu'il a.
Oui, je crois que comme tous les grands auteurs classiques, il part toujours de quelques exemples réels, mais qu'il peut faire une synthèse, créer avec deux ou trois personnages un seul personnage littéraire, et du même coup lui donner un relief, une netteté, une sorte de clarté qui n'existe pas tout à fait dans la vie où les choses bougent et tremblent un petit peu.
On va revenir sur ce que disait Bernard de Fallois, interrogé par Simone Maury. Mais d'abord, il faut que vous nous expliquiez un petit peu qui était Bernard de Fallois.
Bernard de Fallois, c'est d'abord un grand ami, qui a été très proche aussi de Jacqueline ensuite, quand Marcel nous a quittés. Il a été son éditeur. C'était un très grand éditeur, quelqu'un qui vraiment avait un regard sur la littérature, sur un texte. Et c'est vrai qu'un éditeur comme Bernard de Fallois édite un auteur comme Marcel Pagnol, on est quand même vraiment dans la grande classe des deux côtés, oui.
Alors d'où vient l'art du portrait? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qu'en fait Bernard de Fallois dans cette archive?
Alors oui, non seulement je suis d'accord avec cette analyse, mais je dirais que pour moi, il y a chez Pagnol deux types en réalité de personnages. Il y a ce que j'appelle les personnages et il y a ce que j'appelle les héros. C'est-à-dire que les héros vont être porteurs de l'intensité dramatique. C'est eux sur qui va reposer l'intrigue, donc Marius, Fanny, c'est eux qui souffrent. Ils sont les héros tragiques.
Ils ont un destin tragique.
Ils ont un destin, absolument. Et vous avez les personnages. Alors là, c'est effectivement Monsieur Brun, c'est Escartefigue. Alors là, on ne connaît absolument rien de leur vie, sinon qu'Escartefigue est cocu, mais qu'effectivement, ça nous fait rire. Donc, on n'a pas du tout, on ne s'attache pas à eux par rapport à leur destin tragique. On s'attache à eux parce qu'ils sont là pour authentifier le quotidien. Et c'est comme ça que Pagnol va nous faire comprendre que le temps passe. Parce que ces gens-là sont porteurs du quotidien. Et quand vous allez vouloir que 20 ans se soient passés, vous en enlevez un autour de la table. Et là, la partie de cartes démarre et Panis n'est plus là. Et puis, vous avez les personnages qui sont des passerelles. Et en cela, par exemple, César est assez emblématique, c'est-à-dire qu'il est à la fois drôle avec les personnages et tragique avec les héros. Donc lui, il va être porteur de ces deux entités et c'est lui qui va établir le lien entre ce monde des héros et ce monde des personnages.
Donc c'est un peu les personnages qui forment le cœur antique autour
oui,
des
sûr,
grands héros tragiques.
Bien sûr, mais Pagnol a quelque chose de la tragédie. Je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui lisait Homère, Virgile, Goethe et Shakespeare dans le texte et qu'il reste à ce jour encore le meilleur traducteur de Virgile.
Il y a quelque chose de très étonnant chez Pagnol, c'est qu'à la fois ces personnages sont très marqués, on pourrait presque dire idéotypiques, et en même temps ils échappent toujours un petit peu aux clichés. On sent qu'ils ont une profondeur. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là, Karinane?
Alors, moi, je pense que ce sont moins les personnages qui sont marqués que certains thèmes récurrents chez Pagnol, en fait. Je pense que les personnages, là, je prends le mot personnage au sens générique, hein, plus la définition que je vous ai donnée précédemment. Je pense que les personnages sont beaucoup plus nuancés, en réalité, qu'il y paraît. Les salauds, entre guillemets, comme par exemple les soubérants, ben, on se rend compte à la fin qu'ils ont eux aussi souffert, hein, puisqu'il a perdu la femme qu'il aimait, il a finalement tué le fils qu'il a tout le temps espéré. Donc on se rend compte qu'ils ne sont pas archétypiques en
donc
réalité.
Donc il peut leur pardonner, il aime ces personnages au point de leur pardonner.
Alors je pense qu'il a une bienveillance vis-à-vis de ces personnages, comme tout auteur qui est heureux finalement dans le travail qu'il effectue. Je pense que quand on écrit, qu'on anime des personnages, on a forcément cette bienveillance. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi chacun des personnages que l'on décrit. Donc on finit par avoir une forme d'indulgence. Et puis surtout, Pagnol, c'est quand même quelqu'un qui a un sens aigu de ce qu'est la vie. Il a été très très marqué, il a été confronté très tôt à des drames. Donc je pense qu'il n'a pas une vision manichéenne du monde. Il sait que tout n'est pas tout blanc ou tout noir.
Pour continuer à avancer dans la connaissance de l'art de Pagnol, un nouveau document retrouvé sur les étagères de la salle des archives.
Quand Pagnol écrit, on l'entend. Il a un respect des mots tel que les mots avec lui tout de suite ont une couleur, ont une saveur. Oui. Et alors le miracle de Pagnol, le miracle de son style, c'est que les mots font image, les mots, on les savoure. Les mots, c'est comme, je ne sais pas, un panaché de coquillages, ils font bonne bouche. Oui. Quand on écoute du Pagnol, on n'est pas seulement moralement et intellectuellement heureux, on est physiquement content. Oui. Le soleil est à l'intérieur des phrases, l'image est à l'intérieur des mots. C'est quelque chose de très charnel, de très ensoleillé, de très vivable.
C'était l'homme de lettres, Yvan Audouard. Une archive courte, mais quand même une pépite, Carinane.
Oui, et Paul Genoli disait, il suffit d'une phrase pour que la vie soudain circule, chaque lecture est un printemps, mais c'est vrai. C'est très très vrai. Pagnol lui-même nous donne la clé dans les souvenirs d'enfance. Il dit, ce que j'aimais, c'était les mots. Et en fait, quand il était jeune, il avait déjà cette accointance avec les mots, avec les syllabes, il les faisait rimer, il les faisait... Et quand il parle de son petit ami Lily, il dit justement que lui était déjà connecté avec ces grands arcanes du monde, il était dans sa Provence, il entendait déjà chanter les pierres, et dit « mon pauvre Lily n'entendait rien, son cœur était aveugle, ses oreilles étaient aveugles ». Lui est déjà ce que Hugo verra plus tard comme l'initié, en fait. Hein, et Pagnol a déjà cet amour des mots, et il l'explique, qui vient de l'enfance, de très très loin.
L'amour des mots, c'est-à-dire l'amour du mot qui chante. Vous avez aussi parlé de l'aspect très sensuel, finalement, du rapport avec oui, la nature. Et c'est ça qu'on entend dans cette archive d'Yvan Audouard quand il dit que Pagnol rend ses lecteurs physiquement contents. Et c'est vrai qu'on referme oui, les souvenirs d'enfance, on est physiquement content. On est content.
Oui, mais ça, je le dis depuis toujours, Pagnol est un auteur qui rend heureux. C'est ça, c'est indéniable. Et c'est vrai qu'il a... alors, est-ce que c'était un pessimiste heureux ou un optimiste désespéré ? Là, on peut avoir le débat. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours cette pudeur d'en rire pour ne pas en pleurer et qui a toujours respecté dans toute son œuvre cette forme d'alternance entre une poésie sensuelle et qui nous bouleverse, qui nous touche à l'âme, et cet humour magnifique qui fait que ça crée une sorte de détente à un moment où on atteint un paroxysme dans l'intensité dramatique.
Allez, nouvelle archive à l'appui de notre enquête sur cet art de Pagnol. Pour l'écrivain, journaliste et académicien Michel Droit, il n'y avait pas une once de méchanceté chez ces personnages. Et c'est peut-être l'un des secrets de cette littérature enchanteresse, chronique sur France Inter à sa mort en 1974.
Il y a quelque chose de très saisissant dans l'œuvre de Marcel Pagnol. C'est que vous pouvez chercher, vous n'y trouverez aucun personnage méchant. À travers quelque forme de méchanceté que ce soit, de même que je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de méchant ou même de sévère sur qui que ce fût. On avait l'impression que la sévérité, à plus forte raison la méchanceté, était pour lui un domaine contre nature, un domaine interdit, à la porte duquel son imagination pourtant inépuisable et son expression pourtant si riche et si souple butaient. Il n'était guère peut-être que l'imposture à laquelle il s'en prenait quelquefois, l'imposture dans les lettres et les arts, mais Il le faisait avec une telle gaieté, avec une telle bonhomie, une telle indulgence, qu'on avait presque l'impression qu'au fond de son cœur, candide et généreux, il remerciait les imposteurs d'exister pour son divertissement. Pagnol avait un art extraordinaire de dégager la simplicité des choses. Rien d'apparemment complexe ne résistait à sa désarmante horreur du compliqué, d'un compliqué dont il éprouvait surtout, je crois, le sentiment de l'inutilité, alors qu'il y avait tant de choses belles et simples pour remplir la vie qui, après tout, n'est pas si longue. Pagnol avait d'ailleurs atteint l'universel par l'entremise de la simplicité et de l'humilité.
Il y a toujours cette idée d'universel qui revient encore ici chez Michel Droit. Aucun personnage méchant, c'est un petit peu ce que vous disiez, Karinane.
Oui, alors tout dépend de ce qu'on met derrière le mot méchant. C'est un peu un mot d'enfant, le mot méchant. Donc il y a quand même des personnages très noirs. Geoffroy de Lamaussan est quand même pas commode. Les Soubérans finissent quand même par laisser mourir le bossu pour récupérer la source et pour récupérer la ferme. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont méchants, mais enfin en tout cas, c'est pas des gentils. Voilà. Maintenant qu'il n'y ait pas une once de méchanceté chez Pagnol, oui, ça me paraît à peu près évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que la réédition des œuvres de Pagnol illustrées par Sempé était une évidence, parce qu'il n'y a pas une once de méchanceté non plus dans les personnages de Sempé. C'est une véritable merveille. Il y a, contrairement à Giono qui peut être fâché avec le créateur, il y a chez Pagnol une bienveillance vis-à-vis de la créature. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est que Pagnol, il y a quand même chez lui cette indulgence de se dire, voilà, on peut faire des choses pas bien, mais à l'arrivée, de toute façon, tout le monde souffre. Voilà, il y a quand même ça.
Dans l'art de Pagnol, il y a l'art du conteur. On a presque envie de dire que c'est la chose qu'il maîtrise le mieux, le conte. Qu'est-ce que c'est que finalement cet art du conteur? À quoi on le voit et comment le maîtrise-t-il si bien, Karine?
Ah, mais si jamais je savais comment il le maîtrise, je...
L'utiliseriez, mais vous êtes écrivaine, voilà, donc vous l'utilisez déjà.
Oui, mais tous les gens qui l'ont connu ont dit que c'était vraiment magnétique. D'ailleurs, Ali Darouf lui disait « Continue Marcel, je sais que tu mens, mais je me régale. » Et c'est vrai que dans les soirées mondaines, quand il était reçu, tout le monde l'écoutait. Enfin, il captait l'attention parce que oui, il avait cette faconde, il avait cette... Alors déjà, Pagnol, c'est quand même un éblouissant langage. Hein. Il a une maîtrise de la langue française absolument incroyable. Et je valide complètement cet amour de la simplicité. En effet, c'est quelqu'un qui rationalisait toujours les choses. Un exemple que je trouve très très parlant, c'est quand il évoque Rousseau. Rousseau avec l'homme qui naît naturellement bon et que la société pervertit. Et Pagnol disait avec énormément de bon sens, je ne comprends pas comment une société qui est composée d'hommes naturellement bons peut à la fin être pervertie. Mais c'est tellement logique en réalité. Et Rousseau a fait tout un livre que Pagnol finalement résume et démonte en une seule phrase qui est frappée au coin du bon sens. Voilà, et ça le résumait très bien.
Un nouvel extrait court, celui-là, de Pierre Tchernia. Assez émouvant, vous allez voir.
Je viens de reprendre une phrase qui me touche beaucoup et qui se trouve à la fin du château de ma mère. À la fin du château de ma mère, il évoque, en un raccourci terrible, dans une dernière page, il évoque brusquement, alors qu'il vient de raconter les histoires très touchantes de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs et de ses amis, il évoque brusquement, en une page, la mort de tous ces personnages, comme dans un cortège funèbre qui télescoperait plusieurs années. Et ça se termine par cette phrase que je trouve très bouleversante. Il dit « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. »
Vous l'avez vous-même anticipé, cette phrase, vous la disiez en même temps que Pierre Tchernia dans cette archive.
Elle est magnifique, vous voyez, j'ai encore des frissons quand je l'écoute. Elle est bouleversante de réalisme, bouleversante d'authenticité et surtout de vécu, en réalité. Ouais.
C'était un moraliste, Pagnol? Parce que ça, c'est un peu une phrase de moraliste, non?
Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, pas au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Pagnol ne fait de leçons de morale à personne. Et j'allais dire, c'est même quelqu'un qui prend la morale de son époque à contre-pied, parce que en fait, dans toute son œuvre, et je veux notamment le voir au travers du statut de ce qu'on appelait à l'époque la fille-mère, qui est un thème qui est récurrent dans son œuvre, systématiquement, en fait, son œuvre monte au créneau pour défendre ses femmes, pour défendre leur honneur, et pour montrer justement que c'est le groupe qui les pousse, alors soit à se marier, soit à raconter, à mentir, etc. C'est ce groupe-là, il est là, le vrai déshonneur, dit Fanny. Et je pense que Pagnol était tout sauf quelqu'un. C'était pas un père la morale, hein, pas du tout.
On a intitulé ce dernier épisode « Le sourire de Marcel ». Comment le qualifier en un mot ou en quelques mots, ce sourire? Est-ce qu'il est pleinement joyeux? Peut-être plutôt un peu mélancolique aussi, on l'a vu dans ce dernier épisode.
Je dis tout le temps, le soleil de Giono est le soleil noir de la mélancolie. Celui de Pagnol est rond et bien brillant. Voilà, le soleil et le sourire de Marcel Pagnol sont des sourires authentiques et des sourires vrais.
Et c'est peut-être cela qui nous touche finalement, la mélancolie derrière la vitalité de Pagnol. C'est peut-être cela que l'on ressent et où réside le secret de son art à double fond. Au sujet de ses souvenirs d'enfance écrits à la fin de sa vie, il a raconté qu'il ne parlait pas de lui, mais de l'enfant qu'il n'était plus. Il disait « C'était un petit personnage que j'ai connu, mais qui s'est fondu dans l'air du temps, à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette ». Pagnol, c'est donc peut-être cet enfant qui a refusé de grandir. D'ailleurs, répondant au questionnaire de Proust de l'hebdomadaire Jour de France, c'était en 1964, à la question « Que voudriez-vous être ?», il avait répondu « Jeune ». Et à la question « Quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir ?», il avait répondu « La jeunesse ». Voilà pourquoi nous nous quittons, avec un sourire évidemment, par cette dernière archive espiègle, trouvée sur une étagère mal éclairée, tout au fond de la salle des archives. Il s'agit d'une chronique de Françoise Dumayet, c'était au moment de la mort de l'écrivain.
Et ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est une toute petite histoire qui est arrivée l'autre jour à propos d'une grande mort dont on vous a beaucoup parlé, la mort de Marcel Pagnol. On a annoncé, comme il se doit, la mort de Marcel Pagnol avec le ton qu'il fallait, qui est un ton de service funèbre. Et dans ce ton de service funèbre, il est exclu, évidemment, qu'il entre un sourire, sinon par Marcel Pagnol lui-même. Et l'autre jour, alors qu'on venait à peine d'apprendre sa mort, au cours du journal télévisé, une présentatrice, bien coiffée, se tenant bien droite, regardant bien la ligne noire du cimetière pour être sûre que rien ne bougeait en face, avec à sa gauche Marcel Achard et encore à sa gauche Raymond Pellegrin, a annoncé, du ton de circonstance, bien sûr, eh bien, il y a une heure à peine, nous venons d'apprendre la mort de Marcel Achard. Et Marcel Achard, gentiment, d'un petit geste très vif, a dit « Mais non, mais non !» Et la speakerine a continué, rien n'a bougé, la ligne du cimetière était toujours bien noire et elle a dit Marcel Pagnol, évidemment. Et j'imagine que vous, comme moi, en la regardant, vous avez éclaté de rire et vous auriez eu envie de faire comme aurait fait Marcel Pagnol, qui aurait souri, au moins rassuré Marcel Achard, au moins dit « Eh bien, vous n'êtes pas enterré tout vif, non, c'est moi !» et qui aurait dit, comme il a dit une fois, au cours d'une soirée à laquelle j'étais dans un dîner, où Marcel Pagnol, j'allais dire Marcel Achard, vous voyez que moi aussi, je suis prête à faire des gaffes et que nous sommes tous prêts et que nous avons au moins envie de les reconnaître. Alors qu'il avait fait une gaffe énorme qui jetait un froid terrible, a eu un instant vraiment affreux et a dit tout de suite « Oh, je suis escagassé ».
Ainsi se termine La France de Pagnol, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Charlotte Roux, enregistrée par Delphine Baudet. Attachée de production Lily Cornaer avec Alina Véronique Jolivet. Un grand merci à nos intervenants Hélène Rivière, Noël Herp et Karine Anne. Retrouvez ces 6 épisodes et partagez-les si vous le souhaitez à partir de l'application Radio France.